France Inter.
Le journal, Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous. L'horreur dans une salle de concert près de Moscou hier soir. Un attentat revendiqué par l'État islamique a fait au moins 60 morts. Vous entendrez un rescapé de la fusillade dans la capitale russe en état de siège ce matin. Cette question, où sont les assaillants? Et on y revient sur cet attentat à 8h20. Allié Marion.
Question sur les auteurs, le contexte et les conséquences de cet attentat. Avec Laure Mandeveille, grande reporter spécialiste de la Russie au Figaro, et Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes.
Et nous serons aussi en duplex avec notre correspondant, le correspondant de France Inter à Moscou. On attend vos questions, vos interventions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans l'actualité également, la campagne pour les élections européennes qui fracture la gauche, divisée sur sa participation au débat organisé par la chaîne CNews, la flambée du coût du cacao à une semaine de la chasse aux œufs de Pâques, des messages pour nos descendants bientôt envoyés sur la Lune par la mission Artemis, on vous explique. Et puis France-Allemagne de football ce soir et le tournoi féminin des Six Nations, c'est du rugby et c'est au programme du Journal des Sports de Clara Lecoq-Réal.
France Inter.
Il était 20h hier soir dans la banlieue de Moscou quand plusieurs hommes armés ont tiré au fusil automatique sur les spectateurs d'une salle de concert, le Crocus City Hall. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 60 morts et 115 blessés. Les assaillants ont pris la fuite. Écoutez le témoignage d'un rescapé. Cet homme était venu écouter le groupe de rock russe Picnic. Il a réussi à s'échapper de la salle avant de poster ce message avec le bâtiment en feu derrière lui.
Nous attendions un concert du groupe Picnic quand la salle a été prise d'assaut par je ne sais pas qui c'était, des terroristes, des militaires. Ils portaient des vêtements bruns. Ils ont commencé à tirer sur les gens avec des fusils automatiques. Tout le monde s'est mis à courir. Il y a eu une terrible bousculade. Tout le monde paniquait. Tout le monde s'est allongé sur le sol, se poussant les uns les autres. Nous avons pu sortir il y a quelques minutes sans prendre nos vêtements, sans rien. Tout le monde courait, mais tout le monde n'a pas pu sortir. Je ne sais pas où est la police. Il n'y a personne pour aider les gens. Si nous n'avions pas réussi à enfoncer une porte, nous serions dans les flammes à l'heure qu'il est. Je ne sais pas qui ils ont tué, qui ils ont blessé. Quelle merde.
Voilà ce témoignage posté hier par ce survivant de l'attaque. Ce matin, Moscou est comme en état de siège. Tous les événements publics sont annulés. Les musées et théâtres vont rester fermés. Sylvain Tronchet, vous êtes notre correspondant en Russie. Le groupe État islamique, je le disais, a revendiqué cet attentat et les forces de l'ordre cherchent les auteurs de l'attaque.
Oui, effectivement, c'est la dernière version officielle que l'on ait, qui remonte maintenant à quelques heures. Dans la nuit, les autorités russes ont affirmé qu'elles étaient à la recherche du commando qui a mené cette attaque. 4 ou 5, voire 6 hommes en treillis, armés de fusils d'assaut, que l'on a vu dans des vidéos qui ont émergé très tôt sur les réseaux sociaux, entrer dans la salle de concert, ouvrir le feu dès le parking d'ailleurs, puis le hall d'entrée, enfin l'auditorium où plusieurs centaines de personnes avaient déjà pris place. Ils ont apparemment également incendié volontairement la salle de concert. Les hommes semblent très déterminés, extrêmement calmes dans leur mode opératoire. D'après certains médias russes réputés proches des services de sécurité, le commando aurait réussi à prendre la fuite à bord d'une Renault Clio dont il diffuse la photo. La voiture aurait été interceptée, affirment ces mêmes médias, ce matin dans la région de Bryansk, au sud-ouest de Moscou. Ces mêmes médias d'ailleurs commencent à diffuser les avis de recherche de la police russe qui désigne comme suspects 6 hommes de nationalité tadjik, sans que cela soit toutefois encore confirmé officiellement. L'État islamique qui a revendiqué l'attaque affirme quant à lui que le commando a pu regagner sa base. La situation reste donc très floue alors que, effectivement, vous l'avez dit, Moscou devrait ressembler aujourd'hui à une ville morte.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour ces précisions. Je précise qu'on vous retrouve à 8h20 avec les invités d'Ali Badou et de Marion Lourd pour revenir sur cet attentat. Aux Nations Unies, le vote d'une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu à Gaza est reporté à lundi. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU travaillent sur ce texte après le rejet hier d'une résolution présentée par les États-Unis. Et le Premier ministre israélien, lui, maintient son projet d'une offensive terrestre à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, même sans le soutien de Washington. C'est ce qu'a dit hier soir Benjamin Netanyahou au chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Ukraine. La princesse Kate à la une de toute la presse britannique ce matin. Elle a annoncé hier qu'elle souffrait d'un cancer, sans plus de précision. Kate assure qu'elle va bien. Elle suit un traitement par chimiothérapie. Dans ce message vidéo, la princesse de Galles demande que l'on respecte sa vie privée ainsi que celle de sa famille le temps de son traitement.
Et en France, cette question, boycotter ou ne pas boycotter le débat des européennes sur CNews.
C'est le cas de conscience des candidats de gauche. Deux d'entre eux ont déjà prévenu. Ils ne participeront pas au débat organisé le 30 mai sur la chaîne du groupe Bolloré. Pour la candidate écologiste, CNews n'est pas une chaîne d'information, mais une officine de propagande. Les explications de Claire Flochel.
C'est Marie Toussaint qui lance le boycott. Au début du mois, la tête de liste écologiste envoie un courrier à ses concurrents de gauche pour leur demander, je cite, de ne pas tomber dans ce guet-apens organisé par leurs adversaires politiques, les encourageant à opposer un refus ferme à l'invitation de CNews. Voilà ce que déclare le candidat communiste Léon Desfontaines quelques jours plus tard sur France Info.
Moi je pense que c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui on a des centaines de milliers de Françaises et des Français qui regardent CNews. Ils ne sont pas tous d'extrême droite, ils ne sont pas tous de droite. Certains votent, en tout cas comptent voter. Eh bien moi je ne souhaite pas laisser la place à la seule droite et l'extrême droite pour tenir le débat. Il y aura un interlocuteur de gauche parce que je serai présent.
Marie Toussaint se sent bien seule jusqu'à dimanche dernier, où sur BFM, la tête de liste socialiste Raphaël Glucksmann sort de sa réserve. Et la suit.
Je réponds qu'elle a raison, que CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre, c'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite. Une idéologie que je juge, moi, extrêmement dangereuse et que donc je ne compte pas m'y rendre.
Mais tous ne sont pas d'accord dans son camp. En période électorale, il faut aller partout, estime un député PS. Il ne faut pas se coucher devant la droite et l'extrême droite, il y a des voix à gagner, dit-il. Ne manque plus que la France insoumise. Manon Aubry n'a pas encore dit ce qu'elle allait faire. Nous allons répondre prochainement, déclare la tête de liste, qui s'est déjà rendue dans la matinale de CNews il y a un mois. Peut-être est-ce là un indicateur.
Claire Flochel du service politique de France Inter. Les Républicains entrent aujourd'hui en campagne. Premier meeting cet après-midi à Paris pour François-Xavier Bellamy. Avant demain, une réunion publique dans la banlieue de Toulouse pour la tête de liste socialiste Raphaël Glucksmann. Crise ouverte au sein du groupe CMA-CGM. La rédaction de la Provence est en grève illimitée contre la mise à pied du directeur de la rédaction. Après la une du journal sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le syndicat national des journalistes dénonce des pressions politiques. Et puis la rédaction de la Tribune, propriété du même groupe, a voté une journée de grève en solidarité mardi prochain. Dernier week-end avant les fêtes de Pâques. Demain pour les catholiques, c'est la traditionnelle messe des rameaux. Et le dimanche suivant, tout le monde ou presque chassera les œufs. Mais cette année, la récolte sera peut-être maigre. La faute au prix du chocolat, plus 11% depuis un an. Et ce n'est sans doute pas fini. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les cours du cacao sont au plus haut, Agnès.
La tonne de cacao vient en effet de franchir la barre des 6000 dollars, du jamais vu depuis 1977. Le prix a tout simplement doublé en un an. Alors pourquoi ? Eh bien, tous les indicateurs sont au rouge. Ce sont d'abord de mauvaises conditions météo, avec le phénomène El Niño qui affecte les rendements en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. À cela s'ajoute une maladie, le swollen shoot, qui frappe le cacaoyer. Ce sont ensuite des incendies qui ont détruit des dizaines d'hectares de culture. Alors que la demande n'a jamais été aussi forte au niveau mondial, tout cela favorisant la spéculation et donc une hausse vertigineuse des prix.
Et comment cela se traduit-il justement sur les prix, Agnès ?
Alors pour cette année, pas d'augmentation spectaculaire car la plupart des chocolatiers ont puisé dans leur stock ou bénéficié de contrats pluriannuels. La hausse des prix devrait être limitée, autour de 4-5%. Mais ensuite, il y a un risque de dérapage si les récoltes qui sont en train de s'achever sont mauvaises. Quoi qu'il en soit, la situation ne devrait pas s'arranger avant le second semestre 2025, estiment les experts. Le temps, notamment, que la production en Amérique du Sud monte en puissance.
Merci Agnès Soubiran du service économie de France Inter.
8h10 sur Inter et Corinne, on part pour la Lune.
Avec le projet Sanctuary on the Moon, porté par un ingénieur et des scientifiques français, il vient de décrocher le feu vert de la NASA. 24 disques de saphir gravés avec des connaissances scientifiques et artistiques de l'humanité vont partir pour la Lune avec la mission Artemis. transmise des messages à destination de nos descendants, comme l'avaient déjà fait les sondes de la NASA en 73 et 77. Sophie Becherel.
Carl Sagan, l'astrophysicien américain, avait imaginé le Golden Record, le disque d'or de la sonde Voyager à destination d'éventuels extraterrestres, un condensé du savoir de l'époque. 50 ans après, le projet Sanctuary on the Moon s'inscrit dans la lignée de cette idée. Avec l'évolution des connaissances, il y a beaucoup à graver. À graver et pas à encoder, car il s'agit de faciliter la lecture de ces 24 disques transparents de saphir. Benoît Févelet, l'ingénieur à l'origine du projet.
Les disques font 10 cm de diamètre, vous pouvez le prendre dans votre main. Vous avez déjà les images qui apparaissent à l'échelle macro, donc à l'échelle de votre œil. Et ensuite, plus vous zoomez, on fait le pari que les êtres qui arriveront sur la Lune auront donc une technologie suffisante pour au moins connaître le fonctionnement d'une loupe et puis découvrir des milliards et des milliards de pixels de création originale.
L'eau, la vie, la matière, l'espace, le temps, 5 thèmes en science pure, mais aussi des œuvres artistiques, des langues étrangères, des règles de jeux de société. Il s'agit de laisser des traces tout en décentrant notre regard, précise un autre acteur du projet, l'astrophysicien Jean-Philippe Usan.
On est en train de parler à nos descendants dans plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, mais on parle d'abord aux gens qui le découvriront quand il sera déposé sur la Lune, c'est-à-dire nous ici sur Terre, parce que bien sûr ces disques vont être rendus publics. Qu'est-ce qui fait qu'on est humanité ? Se dire, ah tiens, mais si moi je devais laisser une trace un peu volontairement, qu'est-ce que je laisserais ?
Transporté par la NASA, Sanctuary devrait atterrir sur la Lune en 2026.
Sophie Becherel, une voix et un look iconique. La chanteuse Nico a marqué l'histoire du rock, voix du premier album du Velvet Underground en 67, égérie de Bob Dylan ou de Jim Morrison. 36 ans après sa disparition en 1988, deux de ses albums solo ressortent en version restaurée, Mathieu Culeron.
Lorsque Nico quitte le Velvet Underground à la fin des années 60 pour une carrière solo, c'est pour enfin s'émanciper de la jalousie maladive de Lou Reed et sur les conseils de Jim Morrison d'écrire ses propres chansons. Après Chelsea Girl, son premier album solo, c'est sur la maison de disques des Doors qu'elle sort The Marble Index, produit par un ancien du Velvet Underground, John Cale. Passé un peu inaperçu à sa sortie, son côté glacial, gothique et presque médiéval va pourtant influencer une cohorte d'artistes des décennies plus tard, depuis J. Harvey à Björk en passant par Elliott Smith. L'album est en partie un hommage au poète William Blake que lui a fait découvrir le chanteur des Doors, mais une chanson, Harry Songs, par le L de son fils Harry Boulogne. Le troisième album de Nico est également produit par John Cale, encore plus dépouillé et à la limite de la musique liturgique. Le disque est une prière à son fils, Harry, qui chante dans cette chanson Le Petit Chevalier, une chanson déchirante quand on connaît le parcours de cet enfant sacrifié, disparu l'année dernière.
Je suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux.
Ces deux rééditions des albums de Nico viennent nous rappeler combien l'ancien mannequin allemand, à travers une vie de chaos, a su marquer en profondeur la musique pop sur plusieurs décennies.
Voilà, la chanteuse c'est Nico, les albums s'appellent Marble Index et Desert Shore.
8h13 sur France Inter, le journal des sports.
Avec Clara Lecoq-Réal aujourd'hui. Bonjour Clara.
Bonjour Corinne, bonjour à tous.
On commence par un classique du football européen.
France-Allemagne, 34e du nom, ce soir à Lyon. Et qu'on se le dise, à la fin, ce n'est plus toujours l'Allemagne qui gagne. Les Bleus ont remporté ce duel une quinzaine de fois. Ces dernières années, dans les rangs, souvent, il y avait Antoine Griezmann. Aujourd'hui blessé et donc absent, c'est un événement, Xavier Monferrand.
C'était presque devenu un jeu entre lui et le sélectionneur, mais quand est-ce que la série allait s'arrêter ? La dernière fois que l'équipe de France a joué sans Antoine Griezmann, c'était il y a presque 7 ans, en juin 2017 contre l'Angleterre, l'un des tout premiers matchs en bleu d'un certain Kylian Mbappé.
Depuis que je suis en sélection, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matchs, c'est vertigineux. Celui qui veut battre ça, qui se lève de bonne heure, ce sera pas moi, c'est sûr. On va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui se remplace pas. Le style d'Antoine fait qu'Antoine est un joueur spécial pour l'équipe de France. Comme dans la vie, quand ton plan A ne marche pas, il faut le plan B.
Griezmann n'est pas irremplaçable, mais indispensable. C'est le sélectionneur Didier Deschamps qui le dit. Le plan B, c'est donc de se serrer les coudes et de croiser les doigts au milieu de terrain pour Aurélien Tchouaméni, directement concerné.
Je pense qu'en l'absence de Griezmann, tout le monde va devoir encore élever son niveau de jeu parce que c'est un joueur clé. Donc il va falloir récupérer plus de ballons, il va falloir faire plus de passes et on espère que ça va bien se passer.
Il n'y aura donc pas de 85e match de suite en bleu pour Antoine Griezmann, mais c'est déjà historique. C'est presque le double du précédent record que détenait Patrick Vieira avec 44 apparitions d'affilée.
Alors comment les Bleus vont-ils faire sans Grisou? Réponse à 21h ce soir pour ce France-Allemagne amical à 3 mois de l'Euro. Faut-il le souligner en Allemagne?
Ils feront au mieux bien sûr. Eux préparent les JO, Clara.
Les espoirs, les moins de 23 ans, ils jouaient hier face à la Côte d'Ivoire pour une victoire. 3-2. Thierry Henry le concède, ce fut laborieux. En rugby, il n'est plus question de préparation pour les Bleus ES, c'est le tournoi des Six Nations, les femmes après les hommes, et un France-Irlande attendu cet après-midi au Mans avec près de 15 000 spectateurs. Les Françaises Anaëlle Déhay et Agathe Socha au micro de notre reporter Fanny Le Chevestrier sont impatientes de jouer et, il faut l'avouer, de découvrir la ville du Mans.
Je connaissais que les 24 heures. je sais pas, on va découvrir. Je pense que
ouais, je pense que voilà, c'est vrai, c'est un stade qu'on connaît pas non plus. Après, on regarde sur Wikipédia, c'est un très joli stade. Donc, encore une fois, en France, les fêtes peuvent être très belles et le public peut répondre vraiment présent. Donc, ben voilà, il y a de plus en plus de gens au match, il y a de plus en plus de médias. Et je pense que petit à petit, on va arriver à avoir une superbe visibilité. Ça grandit en France.
France-Irlande, coup d'envoi de ce match à 15h15. Et puis, il y aura du monde aussi aujourd'hui au nord-ouest de Paris à la Défense Arena. 45 000 bénévoles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques sont attendus. Avant de connaître leur planning début avril, ils découvriront tout à l'heure leur tenue olympique.
Et une nouvelle polémique à venir, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Merci Clara Lecoq-Réal.
Quoi, des polémiques autour des JO?
Non,
mauvaise
langue. C'était dans le journal de Corinne Audouin, Clara Lecoq-Réal. Il est 8h17 sur Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Céline Dacosta, nous sommes en mars, les giboulées sont de retour.
Oui, c'est vrai, ce matin on les retrouve surtout sur un axe sud-ouest Pyrénées, nord-est. C'est aussi le retour de la neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord à basse altitude. Pour la moitié nord, le ciel est partagé entre nuages éclaircis. Et déjà quelques averses ce matin, on a une belle giboulée là qui vient de tomber sur Paris. Le ciel était bleu, quelques éclaircies et d'un coup, ça c'est le propre de la giboulée, c'est arrivé. Temps sec et ensoleillé en revanche de la Vendée au nord de l'Aquitaine et près de la Méditerranée, le tout sous des températures semblables à celles d'hier. Hein. Ce matin, 5 à 11 degrés au nord, 12 à 18 pour la moitié sud.
Et on aura des averses plus fréquentes sur la moitié nord cet après-midi.
Oui, c'est vrai, parfois orageuses, même avec du grésil, un vent soutenu, ça va se gâter. Hein. Du vent, on en aura également sur la moitié sud, sous un ciel beaucoup plus clément, avec des éclaircies de plus en plus larges en allant vers le sud-est. Quant aux températures, c'est la chute dont on vous parle depuis quelques jours déjà, jusqu'à moins 12 degrés par endroit. Ce sera le cas à Nancy, 21 degrés hier, plus que 9 cet après-midi. La moyenne ira de 8 à 12 degrés sur la moitié nord, 11 à 16 sur la partie sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où ça ne changera pas beaucoup. 18 à 21 degrés encore pour cet après-midi.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 8h18.